Bienvenue dans ce podcast au sujet du dossier électronique du patient, aussi appelé DEP. Le DEP est un système d'archivage décentralisé qui regroupe des informations médicales sensibles mises à disposition par les médecins, spécialistes et hôpitaux. Participer au DEP ne délie pas les médecins de leur obligation de consigner les informations relatives à leurs patients dans leurs propres dossiers médicaux. Du côté des patients, ceux qui ouvrent un DEP décident eux-mêmes de quelles informations ils veulent partager. Le DEP est une initiative fédérale dont la première loi est entrée en vigueur en 2017. Actuellement, rien n'est obligatoire pour les médecins généralistes suisses. En ce qui concerne les coûts, la mise en place du DEP est estimée à 92 millions de francs, en plus de 75 millions de francs annuels pour l'exploitation. Je suis Victoire Pouleur, étudiante en dernière année de bachelor à l'Université de Genève. Dans le cadre du cours transversal « Comprendre le numérique 2 », je réalise un travail personnel qui cherche à comprendre si le DEP est utile et compatible à la pratique actuelle de la médecine générale en Suisse. Pour ce faire, j'ai décidé de me concentrer sur les visions de deux confrères exerçant la médecine générale en cabinet. Par leurs expériences du milieu, ils vont nous donner leur ressenti quant au DEP.
Donc, je suis le docteur Nicolas Perasso, je suis médecin généraliste. Je suis thésé depuis 2008. J'ai exercé à la fois en milieu hospitalier et puis je suis médecin de famille indépendant depuis maintenant 6 ans à Porrentruy, dans le canton du Jura.
Moi, le docteur Pouleur-Christophe, thésé depuis 1993, médecin français installé à Porrentruy depuis 2015.
Je cherche tout d'abord à savoir ce qu'il considère être les fondements de la pratique de la médecine générale, ainsi que le concept du secret médical et la compatibilité du DEP à cela.
La médecine générale, c'est avant tout une médecine de soins primaires qui est axée sur la prise en charge de la personne. Et je pense que les éléments importants qui doivent constituer la médecine générale ou le médecin généraliste sont l'écoute, l'empathie, une relation axée vraiment sur la personne, sur la famille et axée sur le secret médical, donc qui est un socle de la relation de confiance médecin-patient.
Et puis pourrais-je rajouter aussi la continuité sur le temps, sur la durée. Mmh. On suit des gens de quasiment de la naissance jusqu'à leur mort, quoi. Puis le reste, voilà, c'est la première intention, on est en première ligne, on doit orienter, gérer le patient au mieux, et puis limiter les coûts, les redondances des examens, une dispersion des avis médicaux divers qui ne sont pas forcément utiles.
Cette prise en charge du patient, elle doit également intervenir, quelles que soient les croyances, les origines de la personne. Donc la médecine générale, c'est avant tout prendre en charge des individus sans jugement préalable.
Le secret médical, à la base, c'est la confiance du patient envers son médecin et réciproquement, le médecin ne doit pas divulguer des informations à des tierces personnes. Alors en Suisse, le secret médical est levé pour les assureurs. Parce que le patient signe un papier comme quoi l'assureur peut déjà avoir accès à tous les éléments médicaux du patient.
Alors moi, j'ai trouvé une petite phrase très chouette, je ne sais plus d'où elle vient. Voilà, dans la santé est avant tout une relation. Il n'y a pas de santé et de prise en charge sans confidence. Il n'y a pas de confidence sans confiance et il n'y a pas de confiance sans secret. Et je pense que c'est vraiment ce qui définit le secret médical, une relation de confiance absolue entre le médecin et son patient.
Tout dépend de ce qu'on mettra dedans et qui aura accès à ces données. Voilà. Maintenant, tous les dossiers médicaux sont informatisés, mais pour l'instant, c'est un dossier qui est entre son médecin et le patient. Là, c'est un dossier qui est ouvert à plusieurs personnes.
C'est l'essentiel de la question. Qui a accès? Quand? Y a-t-il un accord du patient? Comme on l'a dit précédemment, notre relation thérapeutique est basée avant tout sur la confiance. Donc si ces données doivent être partagées au sein d'un dossier électronique, il faut vraiment qu'il y ait un accord éclairé et une compréhension des éléments qui sont susceptibles d'être partagés.
Parce que par exemple, voilà, on met une information sur le dossier médical partagé, une information, par exemple, monsieur a un cancer de X ou Y, et ce patient va voir son physiothérapeute pour un autre problème, est-ce que le physiothérapeute doit avoir cette information particulière alors que ça n'a rien à voir avec sa, ses compétences ? Voilà, c'est les limites un peu du dossier médical partagé. Est-ce qu'il y aura des informations limitées à certains professionnels, pas à d'autres ? Voilà, on n'a aucune information sur ce qu'il y aura dedans et comment ça va être tout disponible.
Puis la médecine générale, c'est aussi recueillir les confidences de patients, pas seulement des éléments de santé ou des diagnostics ou des antécédents. Et puis ces confidences peuvent finalement toucher à la vie privée, à la vie sociale, à la vie professionnelle, à beaucoup d'éléments.
Peut-être pénalisantes aussi.
Exactement. Pour le patient, donc ces éléments doivent-ils ou pas, d'une façon ou d'une autre, ils peuvent quand même transparaître quelque part dans le dossier médical du patient. Donc en ça, il me semble que ça peut constituer quelque part un frein, je pense, à notre pratique dans le sens du secret médical.
Ouais. Il est facile de constater que la question de la sécurité est au cœur de leur questionnement. Mais qu'en est-il exactement ? Et selon eux, les patients adhéreraient-ils au DEP ?
Probablement que certains patients vont adhérer à ce dossier électronique pour des raisons de prise en charge multiple, hôpital, que leurs données soient notées, de pouvoir transférer leur dossier médical. Mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la majorité. Ouais. Je pense qu'un certain nombre de patients
vont volontairement mettre des informations.
Voilà, vont refuser de mettre un certain nombre d'informations sur le dossier et qu'il y a quand même une certaine crainte de la population d'un envol, d'une disparition de ces données. Et je ne suis pas certain que le dossier rencontre un très franc succès au sein de la population, ce qui pourrait finalement être un échec quant à sa mise en place. Alors, je n'ai pas la notion dans les aspects réglementaires qui régissent cette mise en place du DEP. Mais cependant, il me semble que ces données devraient être réservées exclusivement au corps médical, parce qu'on est quand même confronté à un certain danger de partage de l'information avec les assurances, bien sûr pour toutes les raisons qu'on imagine.
Exclusion non prise en charge.
Mais non prise en charge, refus de prise en charge, tenir un dossier sur... les assurances ont déjà beaucoup de données, mais ce serait quelque part avoir plus de données encore pour pouvoir peut-être plus facilement exclure certains patients de certaines prises en charge, de certains modèles d'assurance. Ça me semble quand même relativement dangereux. Le dossier électronique du patient devrait être un dossier exclusivement médical, réservé au corps médical, avec à des fins exclusivement médicales et de sécurité pour le patient, même si on peut tout à fait comprendre quelque part que les autorités souhaitent ou souhaiteraient peut-être réserver une part de... que ces informations puissent être accessibles à des fins de santé publique, d'une part, et puis à des fins économiques, d'autre part, pour limiter la redondance de coûts de certains examens, par exemple. Mmh. Si on pense à d'autres assurances, comme l'assurance invalidité, des informations sont déjà transmises. On est dans des aspects réglementaires.
Donc une explication médicale avec l'information. S'il n'y a pas d'explication médicale avec l'information, c'est dangereux pour tout le monde.
Oui, toutes les données seraient accessibles potentiellement aux assurances, sans possibilité finalement de remords, de résilience. Imaginons un patient qui
a un petit diabète, qui a un peu de tension,
ou alcoolique pendant une partie de sa vie, totalement abstinent depuis des années, avec un changement total de son mode de vie.
Mais il reste sur étiquette alcoolique toute sa vie.
Exactement.
Même qu'il ne le soit plus.
Donc refus d'assurance automobile, surprime. On peut imaginer beaucoup de...
Un diabète bien équilibré, ce n'est pas comme un diabète sous insuline et avec un équilibre. Donc diabète pour l'assurance, ça sera surprime quel que soit le type de patient. Donc s'il n'y a pas l'information médicale avec, la donnée brute...
Un danger évident, en tout cas. Si tant est qu'il ne s'agisse pas, in fine, progressivement d'algorithmes qui décident de l'attribution de nos... De nos polices d'assurance et de leurs conditions, parce que finalement, il n'y aura peut-être même plus d'humains derrière.
Mots-clés. trois mots-clés, puis c'est ça.
Exactement.
Tu es catalogué sur seulement des mots.
Imaginons un DEP bien implémenté. En cas de fuite de données, la relation médecin-patient pourrait-elle être impactée ?
Bah, a priori, le dossier médical, ce n'est pas le nôtre. Donc, on n'est pas censé sécuriser un dossier qui n'est pas le nôtre. Nous, on informe dans le dossier. Après, je ne sais pas comment seront mis les barrières, les sécurités, mais c'est plus notre dossier.
Je suis d'accord avec mon collègue. Dossier électronique du patient, c'est avant tout une exigence, je pense, des autorités de santé. In fine, nous ne sommes pas maîtres de ce dispositif. Ce dispositif, il appartient au patient, avant tout. Nous ne le gérons pas directement. C'est une demande de mise à disposition d'informations pour le patient et indirectement vers d'autres professionnels de santé. Finalement, si des informations fuitaient de ce dispositif, je ne pense pas que nous soyons directement, nous, impactés ou qu'il y ait des répercussions. Ni pour nous, ni pour des critiques des patients, contrairement à ce qui pourrait se passer, notamment en cas de fuite d'informations de notre propre dossier médical personnel au cabinet. Comme cela a pu se produire d'ailleurs récemment dans le canton de Neuchâtel, avec un problème, semble-t-il, de hacking et des données patients qui se sont retrouvées sur le darknet. Ça, c'est une problématique auquel on est confronté énormément au sein du cabinet médical. Je pense que le dossier électronique partagé expose les données patients à ces problématiques, mais une fois le dossier électronique mis en place, je pense que celui-ci ne nous appartient plus.
Passé l'aspect de la sécurité des données, je dois maintenant me pencher sur des aspects pratiques, tels le temps et le financement, de l'implémentation du DEP au sein du quotidien d'un cabinet médical.
Alors, je pense que les médecins généralistes auront tout à fait la possibilité et le temps de suivre une formation, même si le temps est souvent compté dans l'exercice de notre profession. Les formations font quand même l'objet de notre quotidien. Nous nous formons en permanence. Donc pourquoi pas une formation liée à ce DEP. Après, en ce qui concerne le temps d'utilisation de ce DEP au quotidien, on est dans une problématique différente, puisque nous consacrons déjà un temps très conséquent au cabinet médical pour, bien entendu, notre relation médecin-patient, mais pour un temps administratif en plus déjà très important. Créer en plus ce temps-là de mise en place des informations médicales sur un DEP me semble relativement difficile, délicat, et en tous les cas risque de retrancher très clairement au quotidien des heures de soins dédiées aux patients.
Si il faut faire une double écriture, remplir notre dossier, plus après remplir un dossier informatique du patient, ça fait une double écriture. Donc c'est du temps perdu.
Passer pour chaque patient du temps à implémenter son dossier médical, son dossier électronique, in fine, sur chaque journée, je pense qu'on pourra considérer que nous aurons une, deux, peut-être consultations en moins. Et puis une ou deux consultations, c'est quand même du temps, c'est quelque chose de précieux pour des patients qui peuvent être dans la demande ou pour des urgences.
C'est une exigence de la Confédération, on n'a pas, nous, à financer le dossier médical. Voilà. On a déjà un système informatique, on a déjà... si on nous l'impose, faut mettre des mesures d'incitation à l'utiliser, ou sinon, personne ne voudra concrètement réinvestir X argent dedans.
En termes de financement, comme le dit mon collègue, je ne vois pas en quoi les cabinets médicaux devraient financer ce système, alors qu'on est déjà dans un système d'interopérabilité avec les différents intervenants hospitaliers spécialistes. Donc il s'agit finalement d'un outil de plus d'un bidule, je dirais presque, hein, de plus, qu'on souhaiterait peut-être faire reposer un peu sur nos épaules. Mais je pense que les cabinets médicaux aujourd'hui ont peu de ressources pour financer ce type de système.
Le bilan peut être jugé mitigé, voire plutôt négatif. Finalement, le DEP est-il utile et compatible à la pratique de la médecine générale actuelle en Suisse ?
Alors, je pense que le DEP est une innovation qui peut être utile, fondamentalement utile, probablement pas. Je pense qu'elle peut être utile pour limiter déjà d'une part la redondance d'examens, pour des raisons de coût d'une part, mais pour des raisons de sécurité du patient aussi, parce qu'on peut imaginer qu'un patient qui aurait à plusieurs reprises un scanner ou une radio à peu de temps d'intervalle, il s'agit aussi d'une irradiation parfaitement inutile, hein, donc sur ce type d'examen, les examens ne sont pas toujours anodins, hein, en effet. Le DEP peut être utile si certaines informations sont susceptibles d'être omises par le patient sans forcément en être totalement conscient, hein, souvent de bonne foi, hein, puisque le patient accepterait l'ouverture de son DEP, mais peut ne pas penser à tout signaler au médecin. Et pour ça, le DEP peut permettre aussi être un outil, je pense, pour une prise en charge plus globale du patient avec une optimisation des coûts. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même globalement, on réussit à bien soigner les patients, à bien interagir entre spécialistes, entre médecins, hôpital. Donc je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une innovation vraiment fondamentale. Et je pense en effet qu'il s'agit que ce qui guide essentiellement les autorités pour la mise en place du DEP, mais je peux me tromper, il s'agit essentiellement de considérations de coûts et d'économies pour limiter la redondance d'examens, mais peut-être moins de cet aspect justement sécuritaire qui devrait nous guider pour la prise en charge du patient.
Alors, si on veut mettre un DEP, ben, il aurait été plus sage de faire une informatisation médicale entre les hôpitaux, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, unique. Voilà. Que tous ces médecins travaillent sur le même système, et voilà, ça aurait été tellement plus simple, mais il y a 25 systèmes différents et rien n'est compatible entre eux. Donc le problème du dossier médical, ben, ça va rajouter une nouvelle source informatique non compatible avec le reste. Donc je vois, voilà, pour l'instant, le problème il est vraiment très informatique. Pas médical. On se débrouille sans, ça fait des années qu'on se débrouille sans, et il n'y a pas une surmortalité de la population sans ce dossier. Voilà.
Je remercie chaleureusement le docteur Perasso et le docteur Pouleur pour leur prise de parole. Leurs avis ne reflètent bien évidemment pas ceux de la totalité des médecins généralistes suisses, mais transcrivent tout de même une partie des opinions au sujet du DEP. Partant du principe que le DEP est une initiative fédérale, il est possible d'estimer qu'il ne répond à aucune demande généralisée, que ce soit de la part des médecins ou des patients. Les besoins initiaux identifiés seraient d'uniformiser le réseau de données médicales afin de faciliter le quotidien des médecins, mais aussi de faciliter l'accès des patients à leurs dossiers. Cependant, le DEP en est encore à ses débuts et le flou posé sur les questions de sécurité, d'accessibilité et d'utilité réfrène aussi bien les médecins que leurs patients. D'un point de vue personnel de patiente, il est vrai que si mon médecin ne me parle pas du DEP ou émet une confiance très limitée en celui-ci, je ne vais pas m'y inscrire. Le sujet du DEP semble peu connu et si la Confédération veut l'implémenter, elle devrait travailler sur une large campagne de sensibilisation à son sujet. Au final, suite à l'écoute de mes deux intervenants et à mes recherches annexes, j'ai l'impression que la réelle motivation derrière la création du DEP répond à une logique davantage institutionnelle que médicale.